On est à mi-chemin entre des interventions et un débat, donc à Benoît Labourdette, justement par rapport à cette expérience de pocket film, donc de films réalisés avec des téléphones portables, comme tu l'évoquais tout à l'heure.
Bonjour. Moi, j'ai aussi un certain nombre de remarques sur ce qui a été dit, mais je vais commencer par présenter notre initiative. C'est vrai que il s'agit d'un festival, ce dont je vais vous parler. Alors, est-ce qu'un festival est un vecteur de diffusion en lui-même ? Ça, c'est, je pense que c'est une question à se poser, parce que c'est vrai qu'on est dans les discussions qu'on a aujourd'hui, on est quand même dans une notion de professionnalisme, c'est-à-dire professionnalisme, ça veut dire pouvoir vivre d'un certain métier, et je pense que c'est quand même, j'ai la sensation, ces enjeux-là qu'on discute. Et à ce titre-là, qu'est-ce que c'est qu'un festival, finalement? Il y a beaucoup de festivals. Est-ce que c'est un vrai lieu de diffusion? Est-ce que c'est un lieu de rencontre entre des professionnels? En tout cas, notre festival, il est un petit peu particulier dans l'univers des festivals. Alors, je vous en raconte brièvement l'histoire. En fait, l'idée est née au Forum des Images à Paris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Forum des Images. C'est, pour résumer, c'est une sorte de cinémathèque, on va dire. Mais il y a deux particularités à ce titre-là. C'est-à-dire que si on prend comme référence la Cinémathèque française, qui est l'autre institution culturelle consacrée au cinéma à Paris, qui, dont l'objectif est le cinéma des auteurs, c'est-à-dire, voilà, c'est ça le sujet de la Cinémathèque française. Le Forum des Images a deux sujets bien différents. Le premier, c'est la mémoire audiovisuelle de la ville de Paris, c'est-à-dire que c'est au départ, avant même que ce soit un lieu public, il s'agissait de récolter une mémoire audiovisuelle d'une ville. Et ça, d'ailleurs, c'est une initiative assez exceptionnelle dans le monde, en fait. Ça paraît presque évident, mais en fait, c'est assez rare. Et pourtant, c'est sans doute important. Et puis, le jour où ce lieu a ouvert au public, c'était en 88, ça fait déjà un bout de temps, il s'agit de présenter des films au public, au départ issus de cette collection, mais aussi d'autres films, sur un principe de thématique lié au social, à la société, c'est-à-dire que on va avoir un cycle de 2 mois sur un thème comme les colonies, ou maman, ou la nuit, ou que sais-je, et les films sont beaucoup accompagnés par un sociologue, un psychanalyste, un producteur qui vient, un réalisateur, enfin voilà, c'est un principe de relation entre cinéma et société, c'est un peu ça la spécificité de ce lieu. Et donc, outre les cycles thématiques, le Forum des Images accueille et produit lui-même des événements ponctuels, des festivals. Il y a par exemple le festival Nemo, qui est un festival de nouvelles images, qui est accueilli par le Forum des Images, le festival gay et lesbien, l'étrange festival, des choses comme ça. Et puis le Forum des Images produit par exemple il y a eu un festival d'animation japonaise où on a pu voir les films de Miyazaki pour la première fois en France. Enfin, voilà, il y a une sorte d'écoute comme ça de ce qui se passe, et notamment aux nouvelles images. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, les opérateurs de téléphonie mobile ont lancé ce qu'on appelle la 3G. Alors, pour ceux qui... parce que ces termes techniques, c'est pas forcément très parlant, mais si vous voulez, pour résumer, quand on téléphone avec un téléphone mobile, nos conversations sont numérisées, c'est-à-dire sont transformées en des 0 et des 1, comme sur Internet, et ça passe en numérique entre les téléphones. Donc, on sait bien que du numérique, ça peut trimballer de la voix, on peut numériser une voix, mais on peut numériser une image, on peut numériser une vidéo, numériser un texte. Donc à partir du moment où c'est numérique, on peut, de téléphone à téléphone, s'envoyer un SMS, par exemple. Parce que c'est numérique. Si c'était une ligne téléphonique normale, comme on avait avant, on ne pourrait pas s'envoyer un message. Et il se trouve que le débit numérique est quelque chose d'important. Et le haut débit est ce qui permet les web TV. S'il n'y avait pas de haut débit numérique, s'il n'y avait pas un déploiement de la DSL en France tel qu'il est, et c'est d'ailleurs assez exceptionnel, on est en pointe là-dessus, on n'aurait pas des web TV. Il faut bien se rendre compte que tout au départ naît des possibilités technologiques. Et donc, il se trouve que le débit numérique du réseau de téléphonie mobile à la base n'est pas très élevé, donc permet de transporter de la voix, mais pas de la vidéo. Et il y a 3 ans, les opérateurs français, enfin les 2 plus gros, Orange et SFR, ont, comme on dit, déployé des nouvelles antennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 2 réseaux d'antennes, on se prend 2 fois plus d'ondes dans la tête, ces nouvelles antennes permettent un débit numérique sur les téléphones plus important. C'est ce qu'on appelle le réseau 3G. C'est un nouveau réseau, parallèle et nouveau, et d'ailleurs qui marche plutôt dans les villes que dans les campagnes. Et donc, qui dit, et c'est exactement comme pour Internet, qui dit haut débit numérique, dit possibilité de transporter de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'était il y a 3 ans, au Forum des Images. Moi, à l'époque, je n'y étais pas. Il y a eu une rencontre entre la direction du Forum des Images et la direction de SFR, qui ont décidé, qui se sont dit, nous, SFR, on lance quelque chose qu'on veut promouvoir, et de l'autre côté, nous, Forum des Images, on a envie d'être à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui va se passer, et en l'occurrence, fin 2004, début 2005, ça paraît évident aujourd'hui, la moitié des gens ont un appareil photo, une caméra dans leur téléphone, mais à l'époque c'était pas du tout le cas, et donc ces deux entités se sont dit, on va faire quelque chose ensemble. Et mais quoi faire? Bon, après ils m'ont demandé, moi je suis réalisateur et producteur aussi, et puis j'ai organisé des événements depuis longtemps, et je connais un petit peu la technique, et donc ils m'ont demandé de mettre sur pied quelque chose avec ça. Et voilà.
Avec ça, voilà. Dans le vague, on était.
C'était aussi flou, hein. Ouais. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait. On s'est dit, bon voilà. Aujourd'hui, personne n'a des téléphones. Aujourd'hui, j'entends en 2005, hein, il y a 3 ans, personne n'a de téléphone avec des caméras et un récepteur. Mais dans quelques années, on pouvait parier que dans quelques années, tout le monde aurait un téléphone qui a une caméra, etc. Moi, j'en étais sûr parce que vous savez, les industriels, ils sont forts pour ça. Ils fabriquent une nouvelle technologie et puis ils nous forcent à l'acheter. C'est ce qui s'était passé avec la télévision dans les années 50, quand il y a eu un incendie sur la Tour Eiffel, tout ça pour pouvoir lancer des nouveaux produits. Enfin bref, ils sont forts pour ça. Et alors, mine de rien, ça veut dire que dans quelques années, on aura tous une caméra dans la poche. Et ça c'est un phénomène, ça peut paraître anecdotique de prime abord, mais quand même, moi ce que je disais souvent, si j'avais eu un appareil photo, j'aurais pris ça en photo. Enfin, dans quelques temps, on ne pourra plus dire ça. Donc il y a une relation à sa propre mémoire, à la documentation de la mémoire, si on peut dire, qui change complètement. Et puis tout le monde, maintenant, c'est le site internet du festival, tout le monde maintenant peut produire des images, etc. Donc on s'est dit, il y a 3 ans, comment on peut apporter quelque chose. Enfin, on s'est dit, le phénomène n'existe pas encore, mais il nous semble important d'y réfléchir, de partager quelque chose, autant avec des artistes qu'avec le public, après, pendant le festival, sur les enjeux, finalement, et c'est ça qui nous intéressait, sur les enjeux de la création éventuelle d'images avec les outils de la mobilité. Et donc notre démarche a été assez simple. Elle a été on avait un certain nombre de téléphones, on a demandé à SFR de nous fournir un certain nombre de téléphones, et puis on a prêté des téléphones à des gens qui nous intéressaient. Donc à l'époque, dès 2005, Joseph Morter et Arnold Pasquier étaient de l'aventure, et donc notre discours était simple, c'est de dire, écoute, voilà, il y a ce nouveau machin qui arrive, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Est-ce que ça t'intéresse de tenter quelque chose? Et c'était aussi simple que ça. Notre principe, et ça j'y tiens beaucoup, est de ne donner aucune contrainte. Si on commence à dire aux gens, les films ne doivent pas durer plus de 2 minutes, ou je sais pas, des thèmes de films, ou je ne sais quoi, c'est aberrant parce que du coup ça veut dire qu'on va nous imaginer a priori un cadre alors que justement ce qui nous intéresse c'est de voir qu'est-ce que les gens avec ces nouveaux outils peuvent éventuellement inventer de différent. Parce que si je dis ben, mon téléphone il remplace ma caméra, c'est nul une caméra, j'ai un truc plus moderne, ben non, je veux dire à ce qu'on va autant prendre une caméra, ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce que le téléphone apporte de différent dans la démarche de création. Sinon, bon, bah alors peut-être qu'un jour, les téléphones seront, est-ce que ça s'appellera encore téléphone d'ailleurs, d'une telle qualité que finalement il n'y aura plus de différence, mais aujourd'hui c'est pas le cas, il y a quand même une nette différence. Et alors, on ignorait complètement ce que ça donnerait, c'est-à-dire que quand on part dans ce type de démarche, on ne savait même pas si on pourrait montrer des choses sur un écran, enfin, on ignorait complètement, parce que la qualité technique, surtout à l'époque, était très faible, donc nous-mêmes, on a fait des... Moi, j'ai aussi filmé plein de choses, on a fait des tests de projection sur l'écran à toutes les tailles d'agrandissement des images, est-ce que... voilà, on ne savait pas dans quel type de projet les gens partiraient. Et puis, alors, ça tient peut-être au type de personnes qu'on a choisies pour leur prêter des appareils, je ne sais pas trop, mais je trouve qu'on a vu arriver, les gens ont fait des films qui à l'évidence étaient conçus pour être vus sur un écran de façon collective. Donc finalement on a vu que ce téléphone pouvait être l'outil d'une création cinématographique qui dans son mode de diffusion était classique finalement. Et alors ce qui est intéressant c'est que finalement, et je vais vous dire brièvement ce que moi j'ai remarqué dans la particularité de ces films, parce que moi c'est un petit peu ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Alors la première chose, si vous voulez, c'est le fait que comme on a tout le temps le téléphone dans la poche, même à la limite, même un appareil photo numérique, je vais choisir de le prendre avec moi quand je pars le matin, quoi. Un téléphone, qui oublie son téléphone en partant, c'est vraiment une prothèse qu'on a maintenant, donc on n'oublie pas son téléphone, donc on a tout le temps une caméra dans la poche. Et ça fait que le fait de pouvoir filmer une image à tout instant, c'est, comment dire, ça produit en fait vraiment des nouvelles démarches qui sont particulières pour chacun, je veux dire, mais... on se rend compte que beaucoup d'artistes avec le téléphone, enfin de gens qui se saisissent de cet outil dans une démarche artistique, engrangent beaucoup. Jean-Charles Fitoussi, qui a fait le premier long métrage au monde, je pense, avec téléphone mobile en 2005 dans le cadre de notre festival, lui, il emploie la métaphore de la cuisine. C'est-à-dire que pour lui, il filme beaucoup, 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 et puis... il engrange tout ça et puis ensuite il va servir comme il prendrait des ingrédients et puis c'est au montage que le film se fait. Donc notamment dans son travail à lui, on sent bien que l'écriture, que le processus d'écriture se place au moment même de la prise de vue. C'est-à-dire qu'il y a un changement vraiment important et qui moi me semble chouette par rapport au cinéma, parce que si vous voulez, c'est vrai que l'écriture littéraire préalable à la production d'images peut prendre en compte la spécificité bien sûr de la production d'images, mais on sait bien aussi que là où il se passe quelque chose de spécifiquement cinématographique, c'est aussi dans le hasard et dans éventuellement l'improvisation. Il y a des cinéastes qui travaillent sur l'improvisation justement pour qu'émerge quelque chose de proprement et de particulièrement cinématographique qui n'aurait pas pu être prévu avec des mots avant, parce que en fait il y a une écriture de l'image qui est particulière. Et ce qui était étonnant, nous, quand on a commencé à recevoir des films, c'est de voir comme de la part des gens comme une sorte de redécouverte de la caméra et du plaisir de filmer, de l'étonnement d'avoir filmé quelque chose, qu'il se soit passé quelque chose, et qui plus est, la qualité technique très mauvaise au début, enfin objectivement, techniquement parlant très mauvaise, mais ça veut dire quoi mauvaise qualité? Ça veut rien dire, les peintres impressionnistes ne sont pas plus mauvais que les peintres hyperréalistes parce que leurs tableaux sont flous, enfin je veux dire ça c'est, faut aussi cette espèce d'argument technicien comme ça qui dit c'est mauvais, c'est pas beau la caisse, c'est pas bien, mais c'est aberrant. Enfin, quand on y réfléchit un tout petit peu, ça n'a pas de sens ce genre d'argument. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on dit ah, la qualité est mauvaise. Bon, mais cette image très particulière qui, par bien des aspects, fait penser au Super 8, étonnamment, du coup, elle apporte une sorte de subjectivité. C'est-à-dire que quand je filme quelque chose, ça ne ressemble pas du tout à ce que je voyais. Il n'y a pas du, il y a plus du tout de mimétisme du réel. Les couleurs sont bizarres, il y a des aberrations visuelles, enfin voilà. Donc finalement, il y a une subjectivité très forte des gens qui vient. Et par exemple, on est finalement très loin de la vidéo. C'est-à-dire que dans l'histoire un peu des techniques, le cinéma... c'est-à-dire qu'il y a une relation à la matière, c'est-à-dire que quand on filmait en cinéma, on avait une pellicule, on pouvait la voir, on pouvait la manipuler. Quand la vidéo est arrivée, je ne dis pas que c'est pas bien la vidéo, mais il y a eu tout d'un coup une mise à distance de la matière énorme, c'est-à-dire que c'était une bande dans des grosses machines très chères, il fallait copier, ça perdait de la qualité. On était très très loin de la matière, et pour pouvoir accéder à l'époque de la vidéo à la matière, il fallait des machines extrêmement chères, des régies, etc. Et le jour où le numérique et l'informatique est arrivé, tout d'un coup on a eu à nouveau accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous filmez avec votre téléphone ou votre appareil photo, vous pouvez mettre les images dans votre ordinateur, la manipuler de façon presque comme si c'était avec les mains, sauf que ça passe par la médiatisation d'une machine, et vous avez accès, vous pouvez changer le contraste de votre image, le format, la vitesse, enfin, de façon extrêmement simple, ce qui était impossible avec la vidéo. Avec le cinéma, on pouvait faire autre chose, mais on retrouve, si vous voulez, une sorte de relation à la matière qu'on n'avait plus. Donc c'est pour ça que c'est pas si étonnant qu'il y ait des liens avec le Super 8. Et alors, voilà, première chose, on a ça tout le temps sur soi. Deuxième chose, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir le téléphone, de téléphoner avec, etc. C'est un objet complètement du quotidien, ça n'est pas une caméra. Donc ça n'est pas une caméra, mais ça filme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, du coup, la relation à l'autre est différente. Je dis pas que les gens se rendent pas compte qu'ils sont filmés, mais c'est pas le même rapport. Et on voit des films, si vous voulez, où les gens, et bien des films, pas tous, mais bien des films, les gens ne cadrent même plus. C'est-à-dire que, et ça sans du tout jugement négatif de ma part, c'est-à-dire que même vous, je suis persuadé, pour ceux qui ont un téléphone qui a une caméra dedans, qu'il vous est déjà arrivé, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un devant vous, prenez votre téléphone et vous filmez comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout en train de regarder dans un viseur, en train de faire un cadrage, mais finalement, sans le savoir, inconsciemment, vous accédez à une maîtrise, vous savez très bien ce que vous êtes en train de filmer, et je veux dire, tout ça c'est inconscient, mais voilà, vous pouvez vous filmer vous-même, vous pouvez filmer un objet sans regarder dans le viseur, et ça crée une relation différente au sujet filmé, qui en fait change beaucoup de choses, parce que si vous voulez, quand vous cadrez, c'est-à-dire que quand vous regardez un petit écran qui vous permet de contrôler un cadrage de quelque chose que vous allez filmer, finalement il y a une médiatisation, c'est-à-dire qu'il y a un objet entre vous et le sujet filmé. Alors que si je n'ai plus besoin et que je sais exactement, il y a des gens qui avec des caméras vidéo faisaient déjà ça, utilisaient, ne cadraient plus, mais avaient conscience de ce qu'ils étaient en train de filmer, hein. C'est pas le téléphone qui l'a apporté, mais le téléphone le généralise un petit peu. Finalement, on peut parler avec quelqu'un et pendant qu'on lui parle, le filmer, se filmer soi, filmer quelque chose. On voit des films comme ça, et notamment un film qui s'appelle Porte de Choisy, qui a eu le premier prix du festival Pocket Film cette année, qui est un plan séquence de 8 minutes. J'étais étonné d'ailleurs qu'un jury présidé par Claude Miller, qui est quand même un cinéaste tout à fait académique, mais intéressant, mais académique, donne un prix à un tel film, c'est-à-dire que c'est un plan séquence. C'est un jeune homme avec sa petite amie un matin et il l'a filmé, il s'est filmé, enfin c'est lui seul qui tenait le téléphone, mais ils se sont filmés tous les deux. Ça dure un certain temps, c'est un plan séquence, il n'y a ni montage ni rien, et simplement cette espèce de geste très spontané, c'est quelqu'un qui en fait, ce jeune homme filme énormément. Et puis, à ce moment-là, il y a des moments de poésie, des moments de grâce assez surprenants, que nous, en tout cas, on a trouvé très beaux, et qui sont dans un geste complètement anticonformiste, si on peut dire, par rapport à au processus habituel de création cinématographique. Et donc, il y a une sorte, si vous voulez, c'est un petit peu comme si, de toute proportion gardée, c'est un petit peu comme si on avait un œil dans la main. C'est-à-dire que c'est plus un objet entre moi et le réel, c'est un œil mécanique qui me permet d'enregistrer quelque chose et que je déplace où je veux, et dont j'ai conscience de ce qu'il est en train de capter. Et ça, il me semble que c'est important. Et puis il y a autre chose dont on a parlé d'Internet, etc. Mais il y a quelque chose de très important qui se passe avec Internet depuis 2005. C'est ce qu'on appelle UGC. Alors UGC, c'est pas
les grands méchants loups.
C'est pas la société de production et distribution qu'on connaît. UGC, ça veut dire User Generated Content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. C'est le principe de base des sites de vidéos communautaires que sont Dailymotion et YouTube, c'est-à-dire que ce sont les gens eux-mêmes. Au départ, alors, il se trouve que la majorité du contenu qu'il y a sur ces plateformes, et ce qui fait leur succès, c'est pas les petites vidéos qui sont faites par les gens, c'est le piratage des émissions de télé reprises, etc. Faut pas se leurrer au départ, mais quand même. Mais enfin, c'est les gens eux-mêmes qui postent les vidéos. Et ça, le fait de pouvoir s'envoyer les vidéos soi-même tout de suite, ça change aussi des choses. C'est-à-dire que je filme quelque chose avec mon téléphone, ben je rentre chez moi, ou même avec le téléphone lui-même, je peux l'envoyer, je peux le mettre sur mon vidéoblog, etc. Et ça, si on parle du processus créatif, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse au départ, je pense qu'on en parlera plus cet après-midi de la création, là on est quand même plus dans le...
production
diffusion, voilà. Ça change aussi quelque chose dans l'acte. Alors, pour prendre un exemple, il y a par exemple des gens qui ont fait des films par correspondance. C'est-à-dire que je fais une vidéo avec mon téléphone, je te l'envoie sur ton téléphone, tu es à un autre endroit, tu la reçois, tu fais un film en réponse, et puis à la fin... tous ces échanges comme ça d'images peuvent produire un objet audiovisuel qu'on n'aurait jamais pu faire avec autre chose, parce qu'il n'y avait pas cette immédiateté comme ça. Alors l'immédiateté, le fait de pouvoir diffuser tout de suite, etc., c'est une chose, mais nous, en l'occurrence, dans les démarches des gens qui ont apprêté des téléphones, c'est des gens qui ont beaucoup monté, enfin qui ont beaucoup réfléchi après, hein. Je ne dis pas que ce qui est bien, c'est ce qui va vite, etc. Et nous, on est ouverts au long métrage aussi, et aussi étonnant que ça puisse paraître, en juin 2007, donc pour la troisième édition du festival Pocket Film, il y avait 6 longs métrages tournés avec téléphone. C'est quand même étonnant, et dont 2 qui étaient réalisés par Joseph Mander et Arnold Pasquier. Bon, alors, pour vous donner une petite illustration, je vais vous montrer un film qui a été tourné avec un court métrage, qui a été tourné avec téléphone. Vous verrez cet après-midi un court métrage réalisé par Arnold Pasquier et puis le long métrage de Joseph Mander en fin de journée. Donc j'ai choisi un film qui s'intitule Ceci n'est pas un film, qui a donc été tourné avec téléphone et qui met un petit peu en abîme le sujet, qui date de 2005, donc qui a été fait avec un téléphone primitif, on va dire, en termes de qualité technique. Ça dure 3 minutes. Le son est un peu faible, donc peut-être vous le montez un peu sur celui-là.
Thank you. se plaignent, je ne sais pas pourquoi, mais la nuit paraît souvent plus calme quand la nuit. Tu sais, sur mon téléphone, il y a une caméra. Je crois pas que ce soit pour faire des films. De toute façon, je ne suis pas cinéaste, je ne fais pas de films. Donc, je prends un téléphone avec une caméra, ce serait plutôt comme une boîte à souvenirs. Et des souvenirs qu'on pourrait échanger. Des images qu'on sort des années, comme des clins d'œil. Tiens, tu te souviens de ces images qu'on regardait ensemble, en cherchant ce qu'ils pouvaient bien représenter? Tu les vois? Qu'est-ce que tu y vois? Comment ça, un éléphant? Non, là, tu exagères. On a toujours plein d'images qu'on aimerait partager, des petits mystères ou bien des petits secrets. Comme le cimetière breton où sont alignés contre un mur les noms des bateaux perdus en mer. Tu te souviens?
Faire un
avion. Bien ce moment où Claire nous a appris à faire un avion
en
papier.
Mais
ça fait
en deux, dans la
boîte, bien en bas. Cette grosse araignée qui t'a fait tellement peur. Bon, je crois que tout ça ne peut vraiment intéresser que nous deux. Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de filmer autre chose et pour autre chose? Donc, avec le téléphone, ce que j'ai envie de faire, c'est juste les images que me pourrait ceci. Quelque chose qui voyageait entre deux personnes, entre toi et moi. La fin du monde avec vers le tien, vers ma bouche, vers ton oreille. Alors, regarde bien ce que je vais te dire. Et si on est coupé, je suis pas inquiet. Je suis sûr que tu me rappelleras et que toi aussi, tu feras ton petit cinéma au creux de mon oreille.
Que ce film introduit aussi à quelque chose d'important sur les nouveaux usages, c'est-à-dire que on est vraiment dans un modèle du broadcast, quoi, ce qu'on appelle de broadcast, c'est-à-dire quelque chose fait pour les masses, quoi, si on peut dire. Enfin, c'est un petit peu le modèle de la télévision ou même du cinéma, du spectacle cinématographique. Et là, je trouve que ce film nous parle du fait que tout ça, c'est de l'échange avant tout aussi. Enfin, quand Arnold disait, bah, parfois nos films, ils sont faits pour, ils sont vus par 100 personnes ou 200 personnes. Je crois que faut pas oublier cette dimension-là. Et du coup, faut pas. C'est un petit peu compliqué par rapport à justement au financement de tout ça, parce que voilà, comment financer quelque chose dont finalement l'objectif est une simple communication entre les gens. Alors après, il y a la notion publicitaire, mais notamment sur Internet, si par exemple on dit, bah oui, un artiste maintenant, à la limite, il peut mettre son film sur Internet et puis associer de la publicité, comme avec un site comme Rêveur, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Rêveur, R-E-2-V-E-R, c'est un site internet de vidéo.com, de vidéo communautaire, où si vous voulez publier un film, vous indiquez un certain nombre de mots-clés qui correspondent au contenu de ce film, et à la fin du film, il y a une publicité contextualisée par rapport aux mots-clés qui correspondent au contenu de votre film. Et si votre film est beaucoup vu par plein de gens, eh bien les gains publicitaires sont partagés entre vous et le site. Alors on peut se dire, ah ben ça c'est un modèle économique, peut-être je vais pouvoir gagner de l'argent avec ça, mais pour pouvoir gagner de l'argent avec ça, il faut que votre film soit vu par des millions, enfin disons des centaines de milliers de personnes. Comment faire pour qu'un film soit vu par des centaines de milliers de personnes sur Internet? Et ben les stratégies pour faire ça, elles n'ont pas grand chose à voir avec la création, hein. Il faut justement l'indexer avec les bons mots-clés, etc. Alors, un exemple de ça, je ne sais pas si vous connaissez Lonely Girl 15, par exemple, qui est un truc qui a commencé sur YouTube, où en fait c'est une jeune fille qui voyait, qui racontait sa vie, comme ça, des petites séquences, et puis voilà, ça a commencé à être regardé par plein de gens, et c'était à la fois sur YouTube et sur Rêveur, et en fait on s'est rendu compte que c'était pas une jeune fille de 15 ans toute seule, mais qu'en fait c'était un réalisateur, et qu'en fait c'est, tout ça était un dispositif, c'était une série en fait, un nouveau concept, on va dire, de série télévisée, qui a très bien marché, et qui fait très bien vivre le réalisateur et le producteur du truc. Mais alors il y a vraiment une stratégie derrière tout ça, je crois pas qu'on soit dans un processus de création. Donc tout ça, ça pose des questions.
Oui, moi j'ai une petite question parce qu'il va falloir qu'on,
oui,
qu'on avance un peu et
si, bien sûr,
qu'on laisse Bruno nous présenter un peu son travail. Je voulais savoir justement si tu avais une idée finalement de la sociologie du public qui était concerné par le festival Pocket Film. Et une deuxième question, un peu dans la même veine, mais plus du côté des auteurs. La démarche initiale, elle est fondée sur le fait de donner à des auteurs la possibilité de faire un film, des auteurs identifiés. Donc je voulais déjà savoir un peu quels étaient les... Comment ça avait été perçu? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'il y a eu des curiosités? Est-ce qu'il y a eu des réelles convictions par rapport aux différentes personnes contactées? Et aujourd'hui, justement, un peu cette diversification, je suppose que tu n'es plus dans la démarche, toi, active à aller toujours chercher des auteurs et que, effectivement, les propositions ont dû devenir plus importantes. Donc, quel type d'auteur, justement, qui distingue par rapport à ça? Voilà, public et auteur.
Ok, alors... Sur le public, et puis ensuite sur les auteurs, c'est très important en fait cette question. Sur le public, nous, notre objectif, c'est de toucher un peu tout le monde, mais en fait, c'est pas si simple. Enfin, déjà, honnêtement, aller voir des films tournés avec téléphone au départ, autant ça fait un peu rêver comme ça dans le concept, autant ça donne pas forcément envie parce qu'on a l'impression que ça va être des films nuls, quoi. C'est un peu normal. Et nous, on a été confrontés d'ailleurs au problème par rapport à la presse et aux journalistes. Au tout départ, on a eu énormément de mal à faire venir les journalistes. Ils disaient, mais attendez, mais qu'est-ce que vous foutez, des films, ça veut rien dire. On a réussi à les faire venir, on leur a montré, et puis notre démarche, voilà. Et tout d'un coup, ça les a intéressés. Et en fait, dès 2005, et puis ça ne s'est pas démenti ni en 2006 ni en 2007, il y a eu une couverture presse énorme et internationale. Et d'ailleurs, c'est étonnant, c'est le Forum des images n'avait jamais eu pour aucun de ces événements une telle couverture presse que pour ça. Et alors, le paradoxe, c'est qu'il y a un intérêt comme ça très important, mais... pour faire venir du public, c'est pas si simple. Donc, nous, on en parle, on affiche, etc. On a du monde. En 2005, il y avait, ça dure un gros week-end, quoi, 2 jours et demi. Il y avait 5000 personnes en tout. En 2006, je crois, c'était 7000. Et puis en 2007, 9000. Donc, c'est bien. Enfin, je veux dire, on remplit de plus en plus nos salles. Mais on se rend compte, parce qu'on nous demande énormément... des reprises du festival dans d'autres festivals tout autour du monde. On voyage vraiment beaucoup. Il y a même eu, il y a maintenant une reprise beaucoup plus importante au Japon. Il y a le Pocket Film Japan qui a eu lieu pour la première fois en décembre, avec qui on est partenaire. Et eux, ça a été la même problématique. C'est-à-dire que au niveau de la presse, c'était totalement incroyable, révolutionnaire là-bas, donc les télés, tout ça. Mais au niveau du public, c'était pas si simple.
Est-ce que tu ressens pas quand même une opposition, on va dire, de base entre la démarche finalement, qui est une démarche qu'on apparenterait, enfin qui peut s'apparenter assez facilement dans l'inconscient à une démarche, c'est les téléphones portables, c'est le web, et la démarche de consommation collective, enfin de consommation je veux dire, ce qui est le propre d'un festival à la base, c'est d'aller, voilà, comme le propre du cinéma, d'aller voir ensemble une œuvre qui est projetée.
Ben, je pense que, et là, du coup, on va arriver aux artistes, aux problématiques concernant les artistes. En fait, dans l'idée, il y a peut-être une opposition. Mais en fait, dans la pratique, je veux dire, quelle que soit la caméra qu'on prend, on peut avoir un projet justement qui tient au web et à l'échange, etc. Mais on peut avoir un projet complètement différent, on peut avoir un projet collectif. Par exemple, le dernier film de Brian De Palma qui va sortir bientôt est composé uniquement de fausses vidéos de guerre, etc., de vidéos qui sont censées être publiées par les gens. Et c'est clairement un film de cinéma. Donc je pense que justement, ça existe.
Plutôt au niveau des publics, est-ce qu'ils ne sont pas, eux, segmentés par rapport à justement ces différentes.
Alors, oui, c'est vrai que c'est un petit peu le point de départ. Mais nous, justement, notre discours et notre travail en tant qu'institution culturelle, c'est de dire ben, dans ce secteur, il y a une création importante dont il vaut la peine de discuter, qui vaut la peine d'être vue collectivement, etc. Et c'est justement donner une sorte de faire une sélection et donner une valeur réelle au-delà de l'espèce d'échange comme ça rapide et violent presque des œuvres. On redonne, donc c'est pour ça qu'on fait un catalogue, enfin voilà, on donne, et d'ailleurs ce sont de vraies œuvres, enfin je veux dire, on ne fabrique pas un truc, hein, c'est. Et puis par ailleurs, on a à partir de 2007 essayé de montrer ce qui s'est passé depuis 3 ans dans le monde, toutes les autres initiatives qu'il y a eu dans le monde. Donc on essaie d'être assez exhaustif là-dessus. Et alors sur les artistes, pourquoi, à qui on prête, qui fait des choses, etc. En fait, si vous voulez, au départ, on prête encore beaucoup de téléphones. Alors pour déjà une raison, c'est que la technologie évolue extrêmement vite. Les gens sont de plus en plus équipés, mais par exemple l'année dernière, on a pu prêter à Joseph Mordère un téléphone qu'on venait juste d'avoir et qui avait une qualité d'image, une image 16 fois plus grande que celle que vous avez vue là, où on a presque une qualité de caméra DV avec le téléphone. Et ça, c'est pas forcément évident déjà de connaître les appareils. Nous, on a un peu une expertise technique parce que on n'est pas du tout informé, c'est pas du tout une priorité pour les constructeurs. Donc nous, on essaie d'être un petit peu à l'affût de ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, on suscite beaucoup de choses. On est partenaire avec des écoles d'art, avec des écoles de cinéma. On fait beaucoup de propositions, toujours. Après, il est vrai qu'on reçoit aussi de plus en plus de choses que font les gens, mais notamment dans le domaine de l'éducation à l'image, à l'école, etc. On propose beaucoup d'ateliers, ça nous paraît important. Et aussi, pendant le festival, les gens peuvent aussi tourner des films. Enfin, il y a aussi tout cet apport-là d'ateliers et d'échanges. Et puis pour terminer, malgré tout, vous avez vu un petit bout du site internet. Moi, j'ai choisi que, à partir de cette année 2008, l'entier contenu du festival soit aussi disponible sur internet. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la technologie d'internet permet d'avoir une vraie qualité plein écran, comme si on était devant sa télé. Bah, le cinéma, moi j'ai découvert énormément de cinéma à la télévision, donc la télévision c'est pas honteux même pour voir un film. Du coup je pense que on est mûr aujourd'hui, et c'est vrai qu'en termes de fréquentation, moi par rapport à internet et à tout ce qui était dit tout à l'heure, les télés locales, etc., c'est une chose, mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle des niches, et Arnaud Pasquier pourra en parler. Il y a par exemple l'association dont il fait partie qui s'appelle Point Ligne Plan, qui a ouvert son site internet où on peut télécharger des films, et ça c'est un lieu qui existe, et des films qui étaient invisibles avant, mais invisibles, enfin justement qui pouvaient être vus, et bien dans encore 10 ans on pourra les trouver et les voir réellement, et ça c'est important. Et je pense que malheureusement il n'y a pas d'enjeu d'argent là-dedans, mais du coup nous c'est pareil, on nous demande toujours mais où est-ce qu'on peut voir les films, et on est un peu embêté justement en tant que festival. Mais maintenant ils seront, il y en a une cinquantaine aujourd'hui, une soixantaine sur le site, mais toutes les séances du festival seront visibles sur internet. Je pense que c'est un vrai lieu de diffusion maintenant.
Merci. Je pense que on va certainement passer tout de suite à Bruno Atlan, parce que je